Ça va mieux. Il y aurait des raisons de, bien sûr, d'être troublé, d'être dérangé, etc. Mais il y a aussi des raisons avec ce qui arrive, avec cette pandémie, de vivre des choses qu'on ne vit pas d'habitude, des surprises. Moi, j'en ai une, par exemple, il y a une ou deux semaines, avec toutes ces pluies, notre cave s'est trouvée, non pas inondée, mais quand même assez visitée par l'eau. Et cette cave-là était même recouverte de moquettes. Alors, je ne vous explique pas, comme on dit. Il a fallu complètement tout enlever, enlever la moquette, la détruire, le remettre, enfin, il n'est pas encore remis, le mobilier, mais enfin, le sécher. Bref, et en faisant les affonds, j'ai trouvé, parmi un fatras invraisemblable de choses qu'on accumule, il y avait aussi une de nos filles qui avait mis ses affaires en partie, je trouve une petite pierre, comme ça, que, bon, comme un galet, un petit peu bien poli par l'eau. Et puis je regarde, je vois qu'il y a un petit papier collé soigneusement, avec écrit à la machine, et en imprimé. Enfin, je ne vous dis pas, peu importe ce que c'est. Mais c'était en tout cas une parole qui m'a frappé comme si Dieu me l'adressait à moi, et qui était encourageante, fortement. Je ne me rappelle pas avoir vu ce caillou avec cette inscription avant, ou si je l'avais vu, je l'ai oublié. Mais il n'y avait aucune raison que, en rangeant cette pièce de cave, je tombe sur un caillou avec un billet collé soigneusement, écrit en lettres d'imprimerie, une parole qui n'était pas directement tirée de la Bible, mais qui était dans le même sens, qui aurait pu être tirée de la Bible, et qui m'a encouragé. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui, dans les circonstances adverses, ne sont pas prévues, sont tout à fait improbables et qui néanmoins se trouvent. Moi, je bénis Dieu pour des choses comme ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais il faut savoir voir ces choses-là. Nous sommes ces temps, vous l'avez remarqué, assez orientés cette semaine, cette année, je veux dire, mais déjà avant, déjà l'année passée, enfin moi en tout cas, mais il me semble que les pasteurs aussi, vers non pas seulement ce qui a été dans ce que Dieu a fait pour nous, ce qui est évidemment extraordinaire et qu'il faut toujours rappeler, et pas seulement non plus dans ce qui est maintenant, qui est évidemment l'essentiel, puisque c'est maintenant qu'il faut saisir les occasions et faire ce qui est à faire. Mais aussi dans ce qui vient, dans ce qui se prépare. Et je trouve que, à la fois dans nos chants, dans beaucoup de messages qu'on entend ici ou là, cette dimension est assez peu présente. C'est comme si on devait se contenter du monde tel qu'il est, puis se faire avec, comme on dit, le mieux possible. Et puis quand même plaire à Dieu, louer, etc. Mais la dimension future, la dimension communautaire, pas seulement individuelle, nos chants sont tellement en moi, moi, je, moi, moi, mon, etc., et peu en nous. Mais c'est l'humanité qui est en jeu, c'est l'avenir qui est en jeu. Dieu est en train de préparer des choses souterrainement, si j'ose dire, ou sous l'eau. Vous savez, sous l'eau, dans les océans, vous avez des ondulations il y a tout d'un coup des masses d'eau qui sont attirées, par exemple, par la lune ou par d'autres choses, et elles montent, et puis elles redescendent et elles remontent. On appelle ça des vagues. Mais ces vagues, elles ont l'air de se déplacer, dans un sens, oui, c'est vrai, mais c'est surtout des ondulations, des ondes comme ça, et qui font que, à un moment donné, quand ces ondes, parce qu'elles avancent quand même, arrivent près du rivage, elles éclatent en écume, parce qu'il n'y a plus assez de fond. Alors elles se brisent, et on appelle ça, c'est ça qu'on appelle les vagues, et dans lesquelles les surfeurs aiment bien s'ébattre et faire des prouesses. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se prépare pour nous dans le monde, dans l'univers. Le Seigneur est en train de lever des puissances, des forces qui font monter le niveau que le Seigneur veut nous révéler et qui les font redescendre, mais remonter, et ça s'approche. Et quand ça arrive à un moment donné vers le but, vers le rivage où ça doit arriver, alors on voit ça. Avant, on ne le voit pas, mais on le voit quand ça arrive près des terres. C'est la même chose pour aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans ce temps où les vagues arrivent près des terres et nous révèlent la puissance extraordinaire que Dieu dégage et déploie pour transformer le monde. Pour nous tous, Dieu veut tous, pas seulement des individus, une collection d'individus qui dit « moi je m'en sors bien, ah béni soit Dieu ». Et puis les autres, tous les masses de pauvres et de malheureux qui souffrent, eh ben, ma foi, qui se débrouillent. Voilà, alors j'aimerais prendre une... Oui, je vais encore... On le dira après. Je vais prendre un passage très connu, mais ça fait partie, vous savez, de ces textes des premières pages de la Bible qu'on pourrait appeler des prototypes. L'histoire d'Adam et Ève, par exemple, dans le jardin d'Éden, c'est un prototype des relations entre l'humanité et Dieu, un prototype de ce qui peut arriver, de ce qui ne devrait jamais arriver et qui arrive quand même, un prototype de ce qui pourrait se passer et qui va se passer pour ceux qui écoutent la voix du Seigneur. Et ensuite, il y a l'histoire de Cain et Abel, qui est aussi un prototype, et je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus, sur non pas simplement la dimension verticale, parce qu'avec Adam et Ève, on a affaire à la dimension verticale entre Dieu et l'homme, en l'occurrence l'homme et la femme, qui représentent l'image de Dieu. Et puis, en plus de ça, avec justement l'homme entre aussi, entre l'homme et la femme. Hein. Il y a ces deux choses premières, la dimension avec Dieu qui est touchée, Dieu nous enseigne par l'histoire de l'Éden, mais aussi la dimension entre l'homme et la femme, cette relation est aussi touchée, et c'est très intéressant. Mais là, avec Adam, avec Cain et Abel, nous avons une dimension horizontale, où c'est la relation entre frères, entre prochains, de prochain à prochain, qui est touchée. Je relis ce passage donc, qu'on trouve dans Genèse 4, les versets 1 à 7. Éventuellement, on peut les mettre, mais on peut aussi écouter, ça va aussi très bien. Adam connut Eva. Je prends un peu la sonorité en hébreu. Et c'était donc sa femme que Dieu lui avait donnée. Elle conçut et enfanta Cain. Quand on dit Adam connut sa femme, c'est à tous les niveaux, y compris sexuels. Et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, oh, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Evel. Evel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre qu'il avait donc cultivée, qui avait été produite par lui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très, très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, comme une bête qui est tapie. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et vous savez que cette histoire se dénoue tragiquement. Caïn pratique ce qui est mal, il laisse passer en lui des pensées qui vont se développer et qui vont aller jusqu'à égorger son frère dans les champs. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu plus profondément là-dessus. Parce que c'est extrêmement profond, on a déjà prêché là-dessus, je sais, mais on n'a jamais fini. Vous savez, une histoire comme celle-ci, moi ce que je trouve fantastique dans ces prototypes, ces récits prototypiques de la Bible, c'est que en quelques lignes, en très peu de mots, on peut en apprendre quelque chose d'aussi considérable que toute la Bible. En très peu de mots, nous saisissons par une sorte d'intuition intérieure ce que Dieu veut nous dire, et c'est comme une espèce de miroir qui nous est présenté. Alors, Caïn, on ne va pas le détailler, mais Caïn, le premier-né de ce couple prototypique de l'humanité, d'abord son nom veut dire acquisition. Il y en a qui disent que ça peut aussi vouloir dire forgeron d'armes. Mais je crois que le sens le plus direct pour nous, le plus important, c'est acquisition. Caïn, aux yeux de sa mère, elle en est fière. Hein, elle est fière. Parce que, acquisition. J'ai acquis un homme. J'ai acquis un homme. C'est la première fois. Elle est étonnée. Bon, elle n'oublie pas l'Éternel. Elle dit par l'Éternel ou par la grâce de l'Éternel. Donc, il y a un peu les deux, quoi. Il y a une fierté personnelle et puis il y a la grâce de Dieu qui est là. Il n'y a rien à redire. Et puis alors l'autre, c'est Hevel, qui naît une année ou deux plus tard. Et Hevel, c'est un mot hébreu qui est tiré d'une racine qui veut dire monter. Monter comme un souffle très léger. Ça veut aussi dire léger. C'est un petit peu comme une vapeur. Une vapeur, elle monte, puis elle disparaît. Ça a l'air rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? Et même dans leur métier qu'ils vont faire plus tard, on peut voir déjà aussi une différence, puisque Abel devient berger de troupeaux et Caïn devient cultivateur. Il faut reconnaître que cultivateur, c'est un stade de civilisation qui est un peu plus poussé que berger de troupeaux. Les hommes, ils ont commencé par apprivoiser des bêtes sauvages, ils s'en sont fait des amis, ils ont tiré de ces bêtes du lait, enfin des poules, toutes sortes de choses, des avantages. Bon, tandis que être cultivateur, ça vient un peu après, quand les gens ont découvert qu'ils pouvaient prendre des graminées, les sélectionner, c'est tout un art quand même, et d'en faire finalement des graines qui valent la peine d'être mâchées, parce que c'est une nourriture réelle qui en hiver en particulier, enfin quand il n'y a pas forcément toujours des animaux qu'on peut chasser, eh bien il y a au moins ce qu'on a fait pendant l'été, et voilà. Donc, enfin, ça c'est pas le plus important, mais c'est pour dire que dans un sens, Abel avait pas beaucoup d'importance. Il n'est pas dit que Ève a conçu Abel ou que Adam, il n'est pas nommé non plus. C'est comme s'il venait un petit peu à l'arrière-plan, bon, comme ça. Et voilà que ces deux frères, à un moment donné, décident d'honorer le Seigneur. On ne nous dit pas les circonstances, rien. Caïn a toujours toute cette idée de dire « je vais faire une offrande à l'Éternel ». C'est déjà le mot l'Éternel, hein, c'est pas juste le mot Dieu. C'est déjà le nom propre qu'on trouve dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament avec le nom Yahweh qu'on transcrit en français par l'Éternel, qui est en quelque sorte le nom propre du Dieu d'Israël. Dans les autres peuples, on n'appelle pas Dieu Yahweh, on appelle Dieu, puis c'est tout. Dieu, c'est dans toutes les langues, vous trouvez le mot Dieu, pas comme en français, mais enfin, ça revient au même. C'est-à-dire que Yahweh, là, ça, c'est encore autre chose. C'est le nom spécifique du Dieu qui va se révéler plus tard à Israël. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, alors, tout naturellement, qu'est-ce que Caïn va offrir à l'Éternel ? Bien, des produits du sol. C'est un agriculteur, il produit des fruits, des légumes, enfin, des choses comme ça, et il offre ça au Seigneur, c'est bien, bon. Ok. Et puis Abel, lui, il produit tout naturellement. Il va donner en offrande, mais j'allais dire en sacrifice. Oui, ça va être un sacrifice des premiers nés de son troupeau, quelques premiers nés comme ça tirés de son troupeau, comme les peuls, par exemple, en Afrique. C'est une peuplade qui traverse presque toute l'Afrique sahélienne, là, du bout à l'autre, avec des troupeaux. Et voilà. Et donc il doit se défaire de quelques agneaux pour les offrir au Seigneur. Et puis il se trouve que il nous est dit, ça nous choque peut-être au départ, le Seigneur agrée le sacrifice d'Abel. Curieusement, le moins important aux yeux des hommes, celui qui est un petit souffle, vous savez, dans l'Ecclésiaste, on retrouve ce nom de Abel. Avel, Evel, Evel, hein, vanité des vanités, tout est Evel. Ça veut dire, c'est un souffle qui disparaît, c'est une petite vapeur, c'est pas important. Eh bien voilà, Dieu agrée Evel et son sacrifice. Alors on va se dire, tiens, ah bon, très bien. Par contre, il est dit, non, pour ce qui est de Caïn, il n'agréa pas l'offrande de Caïn. Alors évidemment, quand on lit ça, c'est quoi la question qui monte en vous immédiatement ? C'est pourquoi ? Pourquoi ? Et puis on est étonné. Quand il est dit que, quand c'est arrivé, Caïn devient très irrité et que son visage est abattu, on se dit, ben oui, on le serait encore à moins. C'est normal. On n'est pas surpris. Vous savez pourquoi on n'est pas surpris ? On devrait être surpris si on lit toute l'histoire. On devrait être très surpris, mais on n'est pas surpris. Vous êtes d'accord ? Hein ? On n'est pas surpris. On se dit, ben, moi, à sa place, j'aurais été comme lui. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que ces simples récits nous touchent indépendamment de la psychologie qui est la nôtre. Entre les deux frères, il n'y a pas d'études psychologiques. Le texte ne porte aucun intérêt sur la psychologie, sur le caractère, sur le tempérament de ces deux frères. Non pas que ça ne soit pas intéressant, ça l'est, mais c'est pas là, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas dans nos différences psychologiques. L'enjeu est dans le choix que nous faisons. Alors, ce qui est le plus important, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais Dieu, on pourrait dire pourquoi Dieu n'explique pas pourquoi il agrée le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Il pourrait au moins donner une explication. Pardon ?
Est-ce que les prénoms sont une explication ?
Très longue.
Les prénoms
Ah oui, non, non, je ne crois pas que parce qu'on a donné un nom qui serait peut-être discutable à nos enfants, que Dieu va en tenir rigueur à cet enfant. Je ne pense pas, à moins que ça soit un nom prophétique qui a été donné. Mais non, moi je ne crois pas. Ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que Dieu, il n'a pas à rendre compte de ses choix au départ. Hein? De quel droit le Créateur qui a tout, qui nous a créés, qui a tout fait, il devrait nous expliquer pourquoi il choisit ceci plutôt que cela. Il est Dieu. Bon, on pourrait dire, oui, mais ça serait quand même mieux qu'il explique, parce que sinon c'est un peu imprévisible, on ne sait pas ce que Dieu va choisir, ça nous donne une sorte de stress, on ne sait pas, est-ce que ça va lui plaire, ça ne va pas lui plaire. Bon, on pourrait dire ça. Mais vous savez, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui, comment dirais-je, a le culte de l'égalité, comme en France, égalité fait partie des trois fondements de la France, hein. Égalité sous liberté. Comment? Oui. En plus, je comprends pas. Oui. Fraternité. Voilà, voilà. Hein? Mais ce principe d'égalité, où on voudrait que tout le monde soit exactement égaux, de manière mécanique. Si bien que même dans la laïcité à la française, si on est obligé de restreindre certaines choses chez les musulmans, parce qu'on sait les dégâts que parfois ils peuvent faire, alors on va restreindre la même chose chez les chrétiens, alors qu'ils n'utilisent pas. En tout cas, au XXe siècle et notre siècle, les chrétiens ne sont pas connus pour leur violence, au contraire. Et puis la même chose avec les juifs. Et puis la même chose. Non, c'est pas la conception de l'égalité, ça, que Dieu cultive. C'est pas une égalité mécanique. C'est une égalité surprenante. Oui, il veut aimer chacun. Ça, c'est vrai. Ça, de ce côté-là, Dieu est égal. Il veut sauver tous. Il veut aimer chacun, mais d'une manière qui n'est pas la nôtre, d'une manière surprenante. Alors, c'est intéressant de nous attarder sur la réaction de Caïn. Oui, on pourrait encore dire une chose. On pourrait dire, à la lumière du Nouveau Testament, que peut-être prophétiquement, le Seigneur préfère l'offrande d'Abel parce que c'est un sacrifice. Parce qu'il doit pour cela mettre à mort, ce qui est quand même un peu tragique pour quelqu'un qui aime son troupeau, des petits agneaux qui n'ont pas encore eu le temps de vivre et qui sont, comme on dit aujourd'hui, innocents. Ça pourrait être une explication, mais ça ne joue pas avec Caïn et Abel parce qu'ils n'en savent rien. Alors peut-être que prophétiquement, le Seigneur nous fait connaître qu'il donne la préférence à une offrande sacrificielle plutôt qu'à une offrande de production où le moi orgueilleux pourrait très bien se flatter et se bomber le torse en disant voilà ce que j'ai réussi à produire, ce qui n'est pas la même chose avec un agneau que vous sacrifiez parce que vous n'avez rien fait pour qu'il existe et voilà, vous êtes plus passif dans l'histoire, par contre vous faites un sacrifice. On pourrait dire ça, hein, à la lumière du Nouveau Testament. On pourrait dire ça, mais ça ne joue pas ici. Parce que Caïn et Abel, ils ne savent rien. Ils ne savent pas ça. Donc, leurs deux offrandes, elles sont valables. Aussi bien l'une que l'autre. Pas de problème. Il n'y a aucune dépréciation de l'une par rapport à l'autre. Par contre, où le problème vient, c'est que Caïn, au lieu de se satisfaire du choix de Dieu, devient très irrité. Hein, le texte dit bien très irrité. Pas seulement irrité, mais très irrité. Qu'est-ce que c'est ce boulot? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui agrée l'offrande de mon frère alors que c'est un pauvre type? Oui, Abel, ça représente un petit peu, à certains égards, ça pourrait représenter les handicapés mentaux, bien des gens qui n'ont pas d'importance dans la société, le petit ouvrier méprisé par les grands patrons, vous voyez, ça, et puis qui disparaissent, ils sont victimes, ils meurent, et puis personne, c'est à peine si on a évoqué leurs souvenirs pendant un jour ou deux, après c'est fini. Ça serait un peu les Abel. Alors, Des gens comme Karim peuvent se dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Moi, je me donne la peine, j'invente des choses nouvelles, j'arrive avec mes productions. Eh ben non, il choisit pas, il choisit mon frère. Alors franchement, hein, posons-nous la question, parce que c'est nous. Nous sommes surpris de la réaction. Non, nous ne sommes pas surpris de la réaction de Karim, parce qu'il y a un peu du Karim en nous, il faut le dire. Il y a du Karim en nous. Et Caïn se dit, et nous nous disons, pourquoi d'autres que moi, parmi mes proches peut-être, au sein même de ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, parfois semblent plus bénis que moi. Je ne parle pas de notre cas personnel, là, je m'identifie à chacun. Pourquoi c'est comme ça? Ou bien de... parmi mes collègues de travail. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le plus méritant qui a l'avancement, mais celui qui a su flatter le directeur avec le plus d'habileté, ou parce qu'il est plus riche, etc. Ça, c'est un genre de question qui provient, nous le savons bien, en particulier de ce qu'on appelle la jalousie. Si quelqu'un est mieux traité que moi et qui est proche de moi, si c'est des gens lointains qui habitent l'autre côté de la terre, je m'en fous. Mais si c'est des gens qui sont proches de moi, des anciens camarades d'école, des collègues de travail, des voisins d'immeuble, etc., des gens peut-être que j'ai trouvé non méritants, et puis que les voilà élevés, je deviens jaloux, et même plus que jaloux, je deviens irrité. Et même, je peux devenir très irrité. Et mon visage, au bout d'un moment, devient abattu. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est les deux réactions principales des humains. C'est que soit je commence par une sorte de rébellion, je me rebelle contre Dieu, pourquoi c'est comme ça? C'est dégoûtant, ça ne devrait pas. Dieu aurait dû même choisir mon offrande plutôt que celle de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Je me mets à juger Dieu et je me gonfle le torse parce que je trouve que ce que j'ai fait, c'est mieux. C'est ce qu'on pourrait appeler la rébellion. Donc, nous commençons par une sorte d'orgueil de rebelle, surtout si nous sommes forts, surtout si nous sommes parmi les gens qui ont du coffre, si vous voulez. Hein. On est plus facilement, les gens comme ça sont plus facilement des rebelles. Et puis après, au bout d'un moment, on se fatigue avec cette rébellion, on voit que ça amène à rien, on voit que ça produit aucun résultat, et puis on finit par être abattu. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle le rejet. Hein. Les cours d'autrefois de Bruce Thompson mettaient en évidence ces deux choses. La rébellion orgueilleuse d'un côté, le rejet, la peur d'être rejeté, le sentiment d'être rejeté, la position victimaire, où là on est abattu. On a été gonflé, mais après on est dégonflé. On devient, oh là là, ça ne vaut plus la peine de vivre. Et l'extrême de cela, ça ne vaut plus la peine de vivre, c'est le suicide. Il y a des gens qui sont tellement dans le rejet qu'ils finissent par se suicider. Ce qui est quand même tragique, ça blesse le cœur de Dieu qui aimait cette personne, même s'il n'a pas choisi son offrande. Dieu, on le voit dans la suite, aime Caïn quand même. Et puis, ou bien alors c'est le meurtre. Hein. La voie de facilité, c'est le meurtre. Peut-être pas le meurtre avec un couteau, on égorge dans les champs son frère, mais le meurtre mental, le rejet mental, le rejet dans son cœur, où le plus simple, c'est d'éliminer, c'est de plus s'occuper, mais c'est d'éliminer le concurrent. Allez, c'est fini, j'en veux plus. Je pars, ou bien je lui dis, sors, et c'est moi qui reste. Apparemment, c'est la solution de facilité, mais en réalité, c'est le pire. Parce que celui qui fait ça, il est complètement à côté du dessein de Dieu, et il ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que On pourrait, dans un premier temps, on se dit, tiens, Caïn, Dieu lui, au fond, lui pose une question. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il répond rien. Évidemment, dans un premier temps, c'est peut-être le procédé le plus commun. Je ne réponds pas, je dis rien. Mais vous ne pouvez pas rester longtemps comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui va vous poser une question. D'abord, il a posé une question qui dérange pas mal Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il vaut la peine quand même de réfléchir à cette question et de méditer cette question. C'est vrai, pourquoi est-ce que je suis si souvent irrité par les autres? Pourquoi est-ce que je suis si souvent en colère parce que ils sont plus favorisés, ou bien parce qu'ils m'ont agressé? C'est déjà plus compréhensible. Mais enfin, quand même, la question, elle demeure. Et puis, pourquoi, finalement, mon visage est-il abattu? Pourquoi il n'y a pas une résilience? Pourquoi je tombe dans la dépression? Ça vaut la peine. Quand on lit ces textes, il ne faut pas juste passer dessus en disant « Ah oui, je connais l'histoire, à la fin Caïn, il tue Abel, oui, je connais. » Et puis, il a des difficultés avec Dieu, et puis c'est difficile, il faudra qu'il va un peu en baver dans la vie à cause de ça. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est de moi qu'il s'agit. Ce récit, c'est de moi qu'il s'agit. Je dois passer du temps avec le Seigneur à la lumière de ce texte, moi. Pourquoi? Et après, voyant notre silence, le Seigneur prend la parole, une deuxième fois. Pas pour nous accuser, mais pour nous faire une promesse. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Je veux prendre exactement dans le texte, au verset 5, et l'Éternel dit à Caïn, donc pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Première partie, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alors, évidemment, c'est une bonne parole, mais ça veut dire quoi? Agir bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir bien? C'est trop général, agir bien. Tout le monde dit qu'il agit bien, ou tout le monde voudrait agir bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Eh bien, ça veut dire, si tu fais une pause, si tu prends du temps, si au lieu de t'agiter avec beaucoup de paroles, celles que tu entends dans les médias et celles que tu produis toi-même, si tu fais une pause, si tu te calmes, il y a des chances que tu comprennes ce que c'est agir bien. En tout cas, c'est le début de l'agir bien, c'est de faire ça. Et je pense qu'un des côtés positifs de cette pandémie, c'est de produire chez certaines personnes exactement cela, faire une pause. Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas eu le temps de faire cette pause, qui ont fait du télétravail avec Internet. Bon, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont eu l'occasion de faire une pause. Et dire, Seigneur, tout ça, tout ce charivari, Qui agite le monde. Finalement, qu'est-ce que tu voudrais dire? Nous, les responsables spirituels des églises en Suisse romande, enfin, dans le monde entier, on s'est posé finalement cette question. Après tout un temps, certains se sont posés cette question. C'est ce qui nous a conduit d'ailleurs avec cette équipe dont on vous a déjà parlé, qu'on appelle l'équipe prière discernement, des gens, des vieux de mon âge, à produire un papier de quelques pages. Si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez la voir, vous avez qu'à me dire et je vous l'enverrai. Mais je crois que ça a été envoyé à beaucoup de gens de Lazare, semble-t-il. Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est un bon côté. Mais ça ne suffit pas. Ça ne nous dit toujours pas avec précision qu'est-ce que c'est faire bien. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la bonne volonté humaine de faire bien, la suite montre qu'elle ne suffit pas. La meilleure preuve, c'est que Caïn, malgré ce que Dieu lui dit, malgré les promesses qu'il lui fait, eh bien, il ne fait pas le bien, il fait le mal. Finalement, il fait le mal. Il laisse le péché, la jalousie, l'amertume, le ressentiment, il laisse son cœur gagné par ça. Il écoute un petit peu cette voix-là, avec l'appui des médias, avec l'appui des réseaux sociaux, mais aussi surtout avec l'appui de son cœur qui a hérité du péché d'Adam et d'Ève, ses parents, parce que l'hérédité joue des fois un rôle quand même aussi, jusqu'à un certain point. Donc il laisse ce penchant déformé former quelque chose de mauvais en lui. Il le cultive et il laisse aller jusqu'au bout le processus. Au lieu de résister, comme le dit le Seigneur, sache que si tu agis mal, le péché, il n'est pas encore dit le péché te domine, il n'a pas dit ça. Il a dit le péché se couche à ta porte. Il ne faut pas confondre la convoitise avec la consommation de la convoitise. On peut être dans la convoitise ou dans des mauvaises pensées et puis ne pas consommer ces mauvaises pensées. On peut encore résister. Et là, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. L'image en hébreu, c'est la même chose que si vous imaginez une panthère ou un tigre qui est couché à la porte de Caïn, là devant sa maison, prêt à bondir. Et le Seigneur lui dit, ne te laisse pas dominer par ça. Mais donne-lui des ordres. Maintiens-le dans la soumission à toi. Et en plus de ça, ne le nourris pas. Ne lui jette pas des quartiers de viande. Laisse-le crever de faim. Parce que si tu nourris cette bête, elle va devenir ton maître. Il n'y a aucun doute. Si tu ne la nourris pas et que tu la laisses crever parce que tu te nourris toi de la parole de l'Éternel, c'est elle qui va mourir et c'est toi qui vas vivre. Vous comprenez? C'est ça, faire le bien. Alors on dira, oui, mais justement, on est incapable de faire le bien, comme le dit une prière de la Réforme, incapable de tout bien, Théodore de Bèze. Mais ça peut sembler exagéré, mais il y a quelque chose de vrai. Et pour ça, ben, on sait bien qu'il a fallu que Dieu intervienne finalement après la longue histoire d'Israël avec son fils Jésus-Christ, donné comme sauveur pour nous racheter. Il a fallu ça. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Nous n'avons plus l'excuse de dire, oui, Dieu nous dit de faire le bien, mais on ne sait pas faire le bien et on n'arrive pas à le faire. Non, on peut le faire parce que Dieu nous a envoyé son fils Jésus-Christ et qu'avec Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus-Christ, nous pouvons être motivés par une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit pour choisir ce qui est bien. Notre conscience nous en parle, même si on n'avait pas la Bible est très nécessaire, hein, faut la lire, la méditer jour et nuit presque, mais même si on n'avait pas la Bible, on aurait encore notre conscience qui nous dirait, d'une manière peut-être pas parfaite, mais qui nous dirait quand même à peu près ce qui est juste. Et il faut écouter sa conscience. Il y a des gens, ils veulent bien écouter la Bible, mais ils n'écoutent pas leur conscience. Oui, il faut écouter sa conscience. Dieu nous parle dans notre conscience. Alors il y a des gens qui ont une conscience complètement pervertie et déformée. Mais la plupart des gens ont quand même assez de conscience pour savoir à peu près où est le bien, où est le mal. Enfin bref. Alors, là, Caïn a l'occasion d'entendre cette parole, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu crois en mon fils, ça c'est pas à Caïn qui pouvait le dire, mais à nous, si tu crois en celui que j'ai envoyé dans le monde, pour vous transformer, pour vous régénérer, pour vous laver de vos péchés, pour vous donner une nouvelle mentalité, un nouveau dynamisme, une énergie de vie et de bien, alors vous faites le bien. Vous commencez par là. Vous faites confiance à Jésus-Christ, vous écoutez sa parole et vous commencez à pratiquer ce qu'il vous montre. Ça, c'est agir bien. Si tu fais agir bien, quand bien même, dans un premier temps, j'avais l'air de ne pas prendre au sérieux ta prière, quand bien même tu as été déçu parce que Dieu t'a pas exaucé aussi vite ou de la même manière que tu aurais voulu ou que tes frères ont reçu l'exaucement, puis pas toi, pas tout de suite en tout cas, eh bien, malgré ça, tu vas relever ton visage, tu vas apprendre de moi. Vous savez, quand le Seigneur exauce tout de suite nos prières, alléluia, bien sûr, on est content. Comme on les avait formulées, ah, merci Seigneur, d'accord. Ça veut dire qu'on a fait confiance au Seigneur et que le Seigneur a pu nous exaucer, alléluia. Mais quand le Seigneur ne répond pas d'emblée à nos prières, quand le Seigneur ou nous répond autrement, ou après, il semble qu'il ne répond pas. Ce n'est pas perdu, c'est que le Seigneur nous fait confiance. Dans un sens, quand il n'exauce pas tout de suite nos prières, ça peut être le signe que Dieu nous fait assez confiance pour voir que nous allons supporter l'épreuve et que nous allons nous en sortir avec lui. Vous comprenez ça ? Il nous fait assez confiance pour voir que nous allons nous en sortir avec lui et que nous allons apprendre. Et Caïn avait quelque chose à apprendre qu'Abel n'avait peut-être pas besoin d'apprendre. Caïn doit ne pas se décourager. Le Seigneur lui dit, t'inquiète pas, ne sois pas irrité, laisse tomber ta colère, ne livre pas libre cours à ta jalousie de ton frère ou à toutes sortes d'autres choses, des vengeances, des récriminations. Arrête avec ça, laisse-moi faire dans ton cœur. Et si on laisse faire le Seigneur, eh bien, tu relèveras ton visage. Non seulement tu cesseras d'être irrité, mais tu vas honorer ton frère parce qu'il a reçu apparemment mieux que toi ou plus vite que toi. Tu vas l'honorer. Au lieu de le démolir, tu vas dire « Ah, bravo !» Super, je suis content pour toi. Bon, c'est pas très facile, hein, mais justement, c'est un défi. Et il faut y aller, c'est un défi. Et puis, quelque chose de nouveau arrive. Alors, voyez, si il y a deux façons de vivre, d'après saint Paul. Hein, il parle de la chair et de l'esprit. Ce qui s'oppose au plan de Dieu, c'est notre chair. Et ce qui favorise le plan de Dieu, c'est ce que Paul appelle l'esprit, pas l'Esprit Saint, mais notre esprit. Si dans notre esprit nous favorisons le travail du Saint-Esprit et que dans notre intelligence, dans nos émotions, nous laissons se développer les motivations de Dieu en nous, ça c'est marcher selon l'esprit. On pourrait même dire un degré plus loin, marcher par l'esprit. C'est encore plus fort. Donc tout ce qui contribue à ce que nous renoncions à différentes formes de péché, on sait que ça déplaît à Dieu, on sait que ça nous démolit, on apprend à savoir que ça nous abat, ça rend notre visage abattu, ça nous décourage peut-être même jusqu'au suicide dans certains cas, ou que ça nous pousse à la vengeance, peut-être même jusqu'au meurtre, en tout cas au meurtre mental. Eh bien, je le laisse, parce que personne d'entre nous ne peut dire « je ne suis pas concerné par ce récit qu'on vient de lire ». Personne. Nous avons tous quelque chose de Caïn qui doit être mort. Vous savez, la chair, il ne faut pas essayer de l'améliorer. Il y a des chrétiens religieux, ils essayent d'améliorer la chair. C'est inutile, il faut laisser tomber. Oublie, n'essaye pas d'améliorer la chair, mets-la à mort. Tu ne lui donnes plus à manger. Tu ne lui donnes plus à boire à la chair. Tu la méprises. Je ne parle pas du corps physique, ce n'est pas ça la chair au sens paulinien du terme. Hein. Le corps physique, il faut le soigner, il est important. Il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas même en faire une vedette, mais il est quand même important. Donc ce n'est pas ça la chair. En tout cas, un des sens de la chair n'est pas celui-là. Celui qui nous occupe maintenant, c'est la chair en tant que mentalité qui va dans le sens inverse de Dieu. Une mentalité qui ne veut pas corriger ce qui doit être corrigé. C'est-à-dire que l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est la mentalité qui au contraire accueille la parole de Dieu, qui au contraire aime la parole de Dieu et qui veut faire ce qui est juste, celui-là, il marche par l'esprit, ou il marche selon l'esprit. Et il faut choisir entre les deux. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je crois que ça suffit comme ça. On va encore prier pour que nous choisissions le bon chemin. Parce qu'en Jésus-Christ, même Caïn peut s'en sortir. Caïn n'est pas perdu. Certes, il aura des complications, il va être chassé du jardin, il va devoir trimer, mais Dieu met un signe quand même sur Caïn, parce que Caïn lui dit, c'est trop dur, je ne pourrais pas supporter, n'importe qui va me voir errant parmi les nations et puis il va me tuer. Et Dieu met un signe, le Tav, qui a une forme de croix, sur Caïn, en lui disant, si quelqu'un veut tuer Caïn, Caïn sera mangé 7 fois. Donc, c'est pas fini. Comme avec Adam et Ève, c'est pas fini. Il leur avait dit à la femme, ta postérité produira quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Bien sûr, il va te mordre au talon à ta postérité, mais sa tête va être écrasée. Donc, c'est pas fini. J'en ai pas fini avec vous. Au contraire, je commence. Et l'aventure commence avec Abraham et va jusqu'à Jésus-Christ glorifié dans le ciel. C'est quand même extraordinaire, non ? C'est extraordinaire, c'est fantastique, mais réjouissons-nous, choisissons le bien, arrêtons de faire le mal, choisissons la vie et non pas la mort. Ah, quand même. Et chaque fois, même quand on est en rogne contre notre entourage, même quand on se dit « Ah, c'est dégoûtant », etc. Ah, tranquille, écoute le Seigneur, écoute-le, apprends à le connaître. Allez, calme-toi, tu vas voir. T'as la plus grande promesse. Tu as la plus grande promesse, tu vas relever ton visage, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter, pas seulement un esprit déjà maintenant, mais à la fin réellement. Hein, nous allons ressusciter. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est un laboratoire. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Mais favorisons l'espérance, favorisons la parole de Dieu, disons oui, choisissons la vie, pas la mort. Ah oh. D'accord ? Oui ? Alléluia ! Seigneur, nous sommes là devant toi, frères, sœurs, dans l'Assemblée, à Lazare ou ailleurs, dans toutes les églises, nous prions tous les membres de toutes les églises du monde, afin que l'on voit, dans les années qui viennent, malgré de probables catastrophes plus graves que la pandémie qui vont probablement venir. Mais malgré tout, tu vas faire de nous des vainqueurs, des gens qui sont relevés, des humbles, qui s'inclinent devant toi pour être relevés par toi, qui ne s'inclinent pas devant des idoles, devant les stars, devant les vedettes, devant tous ceux qu'on exalte et des forces occultes devant lesquelles on se soumet, mais nous allons nous incliner devant toi humblement. Et toi, tu n'as qu'un but, ce n'est pas de nous détruire comme les idoles, mais c'est de nous relever comme le vrai Dieu et le Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Que cela pénètre fortement dans chacun de nous ici, aussi dans ceux qui écoutent par streaming en cet instant ou dans les jours qui viennent. Béni sois-tu Seigneur pour tout cela, pour nous tous. Gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons reprendre force, reprendre courage, parce que tu nous le donnes, mais tu veux que nous fassions notre part, c'est-à-dire que nous jouions le jeu, comme on dit. Nous fassions selon toi. Alléluia. Un petit instant encore de silence.